Centrale, ici sonar, j'enregistre une chute d'intensité signal. La cible est en train de changer d'aspect.
Confirmé, la cible amorce une manœuvre.
Alerte sonar, vivant le fou.
On est ici, tous les deux. Toi et moi, comme deux types vraiment ordinaires. Toi, tu fais ton truc, comme tu le sens, et de mon côté, je fais la même chose. Et bien qu'on soit vu face à face, si je suis là-bas et si je dois te neutraliser, ça me plaira pas. Mais je le ferai.
Allez l'avertir! Allez lui dire que j'arrive! Putain de merde.
Bonsoir à tous, vous êtes sur l'autre radio, vous écoutez Le Masque et la Tronçonneuse, la dernière émission de l'année, donc c'est la dernière fois que vous avez pu profiter de ce beau générique. Celui de l'année prochaine sera sans doute un petit peu moins bien, mais rassurez-vous, c'est une année d'après,
mais on
sera encore meilleur.
On ne sait pas, bonjour à tous, on ne sait pas.
On ne sait pas, salut Laurent.
Peut-être la surprise sera là comme il y a deux ans.
C'est ça. On n'est jamais à l'abri d'une réussite.
On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Voilà. Ça va, monsieur Masque?
Ça va très bien, monsieur Tronçonneuse. Alors, c'était toujours bien dans les bois?
C'est toujours bien. L'été sera chaud.
Ah, bah, si tu m'étonnes avec les incendies, ça va chauffer.
Ça va chauffer fort.
Ouais.
L'été sera,
donc, vous êtes tout le temps.
Sera radieux, irradieux. Je sais pas comment.
C'est ça. Irradieux. D'ailleurs, c'est le sujet qu'on va aborder ce soir. On va rappeler les fréquences quand même pour voir si tu suis toujours. 107.9 à Château-Gontier. Et
105.7
perdu, c'est 101.7 à Laval. Et puis non.
Eh oui, à chaque fois. Mais ça sera l'Arlésienne.
Oui, c'est ça. C'est ça. Donc pour la dernière émission de l'année, vu que le soleil cogne fort, on a trouvé un autre soleil qui tape encore plus fort.
Un soleil de feu.
Et c'est les humains qu'on l'a fait. Donc, on va parler de l'imaginaire nucléaire, de l'apocalypse sur grand écran. Un truc qui n'existe pas dans la vraie vie.
Pas encore.
D'ailleurs, c'est assez courant au cinéma quand même de parler de l'atome. D'ailleurs, moi, je vais commencer comme j'ai potassé un tout petit peu le truc, contrairement à d'habitude. Je voulais expliquer ce qu'était le mot apocalypse. Voilà. Qui vient du grec, apocalypsis, qui signifie le dévoilement, la révélation. En fait, apocalypse, au départ, c'est ce qui vient après la catastrophe. Mais
au fur et à... Les Grecs ne sont pas foulés. Ils ont pris le mot apocalypse et ils ont mis 6 au bout, c'est ça? Apocalypsis?
C'est ça. Non, mais c'est plutôt nous qui l'avons récupéré, hein, on l'a modifié. Et la version la plus connue de l'Apocalypse, c'est bien sûr dans le Nouveau Testament, avec l'Apocalypse selon Saint Jean, avec les cavaliers, tout ça. Un texte hautement scientifique.
Les cavaliers de l'Apocalypse, c'est vrai. Voilà. De mémoire, famine, guerre, peste.
Pestilence. Ah, je ne sais plus, mais il y avait ça dans le...
Et mort,
ouais. Il y avait ça, c'était les chevaux qu'on pouvait récupérer dans l'extension de Red Dead Redemption, Undead Nightmare. Une très bonne extension d'ailleurs, qui était. J'ai rarement eu une extension de jeu qui était aussi bien foutue. Et donc l'apocalypse, ça a fini par remplacer. Le terme apocalypse a fini par désigner la catastrophe et non plus ce qui venait après, la révélation. Ce qu'attendent en fait les témoins de Jéhovah qui vont tous survivre à l'apocalypse. Voilà. Ils vont sortir un peu seuls quand même.
Voilà. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas frappé la porte d'ailleurs.
C'est ça. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils seront forcément un nombre pair.
Ah oui.
Vu qu'ils vont toujours par deux.
C'est vrai.
Bref, donc voilà. Et le film post-apocalyptique arrive un peu plus tard, genre après la bombe atomique de d'Hiroshima et de Nagasaki. Et forcément. Forcément, puisque ça n'allait pas venir avant.
Et pardon, mais post-apocalypsis, en grec ancien, ça voulait dire les zombies arrivent.
C'est ça.
C'est sûr.
Ou viser la tête, je ne sais plus.
Un truc comme ça.
Et donc, dans un premier temps, les films, on va dire, post-apocalyptiques, liés à l'explosion nucléaire, c'était surtout des films américains et japonais. On peut facilement comprendre pourquoi, parce que, comme je te disais tout à l'heure, il y a un des deux pays qui l'a envoyé et l'autre l'a reçu. Donc, forcément, il maîtrise un peu le sujet. Et au départ, c'était surtout cantonné à la série B, voire à la série Z. Voilà. Et c'était des films tournés assez vite et sans beaucoup de moyens, avec des invraisemblances, hein, tout ce qu'il y a dans les séries B et les séries Z. L'avantage avec une explosion nucléaire, c'est que quand on n'a pas envie ou qu'on n'a pas les moyens de créer le visuel de la destruction, bah, il suffit de faire une scène surexposée avec qui se termine sur une image blanche, et puis c'est bon, tout le monde a compris que c'était une explosion nucléaire. Voilà. Donc ça a souvent été comme ça. D'ailleurs, ce que je te disais en antenne, comme on dit, c'est que pour moi, la première vraie explosion nucléaire que j'ai vue sur grand écran, c'était celle de Terminator 2, qui est une scène de destruction massive, qui est plutôt bien foutue d'ailleurs, à base de maquettes.
Impressionnant.
Voilà, et qui rappelle fortement les images que l'armée américaine avait fait de villages fictifs, ce qu'on voit aussi dans Indiana Jones, hein, de villages fictifs, Indiana Jones 4, qui ont été construits, rasés par la bombe atomique.
Voilà. Alors, c'est vrai que Godzilla est quand même un film assez particulier pour ce qui est du Japon, puisqu'il arrive moins de 10 ans après l'explosion nucléaire d'Hiroshima et Nagasaki, hein, puisque c'est en 1954 que le film sort, et 10 ans, pour se donner un peu une échelle, bah, je me disais, le 11 septembre 2001, c'était il y a 20 ans. Et ça reste très présent dans nos esprits. Donc, 9 ans après, faire un film qui parle d'une... Voilà, qui met en scène la peur du nucléaire comme le fait Godzilla, c'est quand même extrêmement vif dans l'esprit du public japonais au moment où le film sort. Et puis, c'est un film qui a une particularité aussi. Alors, c'est Ichiro Honda, hein, pour quand même rendre à César ce qui appartient aux Grecs. C'est le réalisateur de Godzilla, Ichiro Honda, et qui met quand même en scène une force meurtrière très nouvelle qui est Godzilla, qui va sortir de l'eau réveillée par la bombe atomique et piétiner, en l'occurrence, Tokyo, autant comme autant. Et cette nouvelle force meurtrière, elle est comme la bombe, elle distingue ni les civils ni les militaires. Et le seul moyen de vaincre Godzilla, ce n'est pas l'armée, c'est créer une nouvelle arme encore plus destructrice qui répond au doux nom destructeur d'oxygène dans le film. Autrement dit, destructeur de vie, puisque voilà. Et c'est encore un savant humain japonais, encore un savant humain qui a la bonne idée de cette belle invention destructrice. Et en potassant un peu le sujet de Godzilla, parce que moi aussi j'ai fait un peu mes devoirs quand même, et je me suis rendu compte d'un truc qui m'a assez surpris, c'est que Godzilla jusqu'au film d'Emmerich représente toujours cette peur du nucléaire, parce que dans le film de Roland Emmerich, c'est les essais nucléaires français qui réveillent le monstre et qui peut-être sont à l'origine d'ailleurs du...
Ouais, ils sous-entendent même que c'est un iguane qui aurait muté, quoi.
Voilà. Voilà. Le dernier film qui parle de Godzilla, c'est Le Roi des Monstres, de mémoire. Je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres depuis.
Il y a eu les séries de deux films américains de Godzilla, et après la série japonaise qui continue aussi de son côté.
Oui, la série japonaise continue, mais le dernier film, le dernier blockbuster, c'est Godzilla 2 de 2019.
Oui.
Le Roi des Monstres. Voilà. Et ce film-là a une certaine particularité quand même dans la filmographie de Godzilla, c'est que d'un seul coup, il ne décrit plus la peur du nucléaire, mais Godzilla devient une arme nucléaire en soi qui va sauver l'humanité. Et ça veut dire que le monstre qui incarnait jusqu'alors cette crainte de l'arme nucléaire en devient finalement le chantre, puisque à travers Godzilla, utiliser une arme nucléaire au profit de l'homme, c'est plutôt cool, quoi. L'arme nucléaire devient salutaire. Ce qui, quand même, en termes de message, bon, hormis le fait que, encore une fois, comme dans les grands films américains, les monstres décident d'atterrir aux États-Unis ou de venir saccager les États-Unis, on est bien dans la merde, en fait. Enfin, au cas où personne s'en était rendu compte encore, à partir du moment où le cinéma commence à dire que l'arme nucléaire est salutaire pour l'homme, ça va venir imprégner l'imaginaire collectif, en fait. Et voilà, et je pense que l'actualité parle pour elle-même, hein, c'est qu'actuellement, quand on voit un peu ce qu'on peut entendre sur certains médias en tout genre, l'arme nucléaire est vécue à la fois comme une crainte et une fascination.
Oui, elle a été remise un peu au goût du jour grâce à Vladimir. Donc,
oui.
Ne serait-ce mais, que enfin, par l'arme et lui, par les centrales en Ukraine.
Oui, alors lui, il le brandit comme une menace. Par contre, effectivement, le discours qui est véhiculé, je pense notamment, notamment à la télévision russe d'État, c'est une espèce de surenchère autour de cette fascination de l'arme atomique, quoi. Donc c'est et une surenchère qu'on trouve dans ces médias-là parce que c'est là où elle est le plus caricaturale, mais qu'on entend aussi ailleurs. Et ça fait flipper.
Après, Godia, c'est aussi une fable un peu écologiste hein, ou écologique, surtout les deux derniers films américains, puisque Godzilla est là aussi pour protéger l'humanité. Mais c'est pas, comme tu dis, c'est une arme nucléaire, mais pas seulement. C'est dans les films japonais, il est aussi devenu protecteur du Japon.
Oui,
par rapport à d'autres menaces. Après, tu peux l'entendre comme une arme nucléaire, hein, ça c'est clair. Parce que,
sauf que, en l'occurrence, la Godzilla, dans le dernier, va éradiquer... C'est-à-dire que même la déesse Mothra, par exemple, va pas pouvoir arriver à bout de l'hydre, je ne sais plus le nom du monstre qui est l'hydre, mais c'est facile à retrouver. Mais l'hydre est vécu comme une menace quasi religieuse. Il y a un plan, on voit l'hydre avec un crucifix en premier plan, et l'hydre au fond sur une montagne qui a quand même presque, enfin qui représente presque une iconographie diabolique en fait. Et à nouveau, on a quelque chose qui vient imprégner, quand je vois ça, une fois qu'on a enlevé le côté spectaculaire du film, parce que c'est toujours sympa de regarder des films spectaculaires, voilà, avec des pop-corns sur les genoux, mais l'humanité est quasiment plus présente. Elle se fait piétiner joyeusement, mais les quelques acteurs qui apparaissent dans le film, finalement, sont les seconds rôles. Le rôle titre, c'est Godzilla, hein, c'est le monstre. Et les destructions sont banalisées. Un peu ce que j'avais ressenti dans un autre film qui n'a strictement rien à voir. Et qui
Man of Steel.
Man of Steel, exactement. Le oui. Superman, où le final de ce film est juste une ville rasée où on voit aucun humain, mais on se doute bien que c'est des milliers.
Des dizaines de milliers de morts. Ouais.
Et cette banalisation, voilà. Cette banalisation, moi, dans le cinéma, cinéma de catastrophe, en fait, tant que le scénario peut servir un propos intéressant, ça me gêne pas. C'est pas une banalisation, mais c'est un moteur. Quand ça devient banalisé juste pour dire, voilà, regardez, l'humanité piétinée, c'est sympa, mangeons des pop-corns et regardez Godzilla. Godzilla, arme nucléaire est notre sauveur. Donc ça me gêne dans le message sous-jacent, quoi. Surtout que bon, tous les spectateurs n'ont pas forcément le second degré qui pourrait être nécessaire à ce moment-là.
Mais c'est ce que tu as un peu quelque part dans les films Marvel, surtout dans la saga des Avengers, où tu as un moment comme la moitié de l'humanité, la moitié des êtres vivants de l'univers qui disparaît.
Oui.
Et ça passe comme ça passe crème en fait. C'est
ça passe crème, oui et non, parce que c'est quand même incarné par un personnage, par Thanos en l'occurrence, qui est une espèce qui est différent du Thanos qu'on retrouve dans les comics, mais qui là en l'occurrence passe pour un espèce de despote qui sous couvert d'une bonne intention de réguler, il se pose en régulateur en fait des atrocités de l'univers. Pour moi, il incarne complètement ce que pourrait incarner un dictateur comme Poutine dans son discours. Et le mec, il essaie de justifier ça en pavant son intention de quelque chose de louable, etc. Alors que juste, il se livre à quelque chose qui est destructeur et qui est sans objet, quoi.
Oui.
Et Thanos, c'est le méchant de l'histoire.
Thanos, c'est le méchant de l'histoire, ouais. Alors que Godzilla ne l'est pas.
Voilà.
Et Superman non plus.
Et c'est bien ce qui m'avait gêné dans Man of Steel.
Ouais. Enfin, c'est le Superman de Snyder, qui est très christique et en même temps qui qui a un body count assez, assez phénoménal quand même, parce que ouais. C'est ce qui est d'ailleurs un peu montré dans la suite, Batman contre, enfin Spider-Man versus Batman, Superman versus Batman versus Superman, pardon, où au début on voit Bruce Wayne qui lui est un humain mais au ras du sol qui essaie d'aller sauver.
Mais je pense que c'était la réponse en fait, parce que ça avait les, enfin ça avait fait réagir hein, cette fin, et c'était la réponse quoi. Et dire, oui, non, on n'a pas oublié.
C'est une scène qui est très réussie, mais qui sent un peu le rafistolage par rapport à
l'autre. Oui, le mea culpa. Voilà, tout à fait.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Et ce personnage, tu as raison, mais le côté christique, justement, que Snyder donne à Man of Steel, pour moi, n'a de sens que dans le Snyder Cut récemment sorti et dans les 5 dernières minutes, où ils sont tous devant. Toute l'équipe des, alors je sais plus comment on les appelle, c'est pas les défenseurs, mais
c'est les justiciers, la Justice League.
Ah, la Justice League.
La Ligue des Justiciers.
Voilà, ça, ils sont devant la ville, en train de se demander comment ils vont faire pour. C'est complètement post-apo pour le coup, tu en parlais très bien, et se demandent comment ils vont faire pour exploser la tronche du despot qui a mené l'humanité à sa perte. Et le despot, c'est Superman. Ce qui était très bien rendu dans une BD d'ailleurs. Dont on a déjà parlé, je crois, en ligne, c'était The Red Son.
Oui. Voilà. Oui, qui est une des meilleures BD de Superman que j'ai pu lire. Ouais.
C'est probablement un des meilleurs comics que j'ai eu à lire. Moi.
Surtout que, par rapport à certains comics où tu as une bonne histoire, mais le dessin, il est un peu. Il t'embête. Enfin, t'as du mal à accrocher au dessin, ou inversement, le dessin est vachement rien, l'histoire est faible. Là, le dessin est au niveau de l'écriture, en fait. Enfin, de mon point de vue. J'ai beaucoup aimé ce comics. Ouais.
Voilà. Oui. Peut-être une petite pause musicale, cher ami.
Oui, on peut. Qu'est-ce que tu nous proposes?
Oh, moi, je dispose.
Tu disposes?
Je dispose.
Donc, on va mettre un petit soleil
après, de on va dire que je... Ah, bah, j'allais dire après, on m'accuse de mettre des trucs qui mettent le feu, justement.
Bah, c'est toi qui me l'as fortement suggéré, quand même.
Bon, d'accord.
Sous couvert d'avoir pris mon chat en otage et d'être à deux doigts de le scalper comme un lapin. Donc,
Oh merde, le chat.
Voilà. En fait, ouais, on écoute ça.
Personne ne peut relâcher.
Et ben voilà, c'était pas mal. Vous êtes toujours sur l'autre radio, 107.9, 101.7 à Laval. Et cette petite musique douce.
Petite musique douce de Tagada Jones.
De Tagada Jones, ouais. Et donc, pour continuer avec les films, avec l'imaginaire nucléaire et puis les films post-apocalyptiques, il y a quand même une grande date par rapport à qui suit quand même l'explosion de Hiroshima, les explosions, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est la crise des missiles de Cuba qui a aussi été un marqueur.
Oui, et qui a d'ailleurs très très bien été reprise dans un film de Stanley Kubrick appelé Docteur Fallamour.
Docteur Fallamour, et dans un autre film aussi qui était assez finalement. On va parler de Docteur Fallamour, mais un autre film qui était aussi qui anticipait finalement bien, alors que c'est un film tout à fait maintenant fantaisiste, c'est James Bond contre Docteur No. Où ça parle aussi d'un peu de ça, de, même si la bombe n'est pas montrée, le nucléaire apparaît déjà. Ce film-là est en date de 62, donc un peu avant la crise des missiles de Cuba. Et je crois que Docteur Fallamour, ça doit être 64 ou 65, si je ne me trompe pas.
Docteur Fallamour, c'est 64.
Tout 64, à fait. Ouais. Donc un an.
Le titre exact est très intéressant. C'est Docteur Fallamour ou comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe.
C'est ça. Où Peter Sellers se joue plusieurs rôles. D'ailleurs, ce que j'ai vu aussi, c'est que ce à quoi je n'avais pas fait attention quand j'ai vu le film, c'est que les personnages ont des noms assez charismatiques en fait. Le personnage de Turgiston, c'est un frénétique absolu, voilà. Et sa maîtresse fait la double page centrale de Playboy. Que regarde le pilote du B-52 qui va lâcher la bombe. Jack the Ripper, ça c'est plus facile, c'est Jack l'Éventreur.
Jack l'Éventreur. Voilà.
Qui se caractérise par son anticommunisme. Mais bon, ça.
Oui, c'est le général complètement fou qui.
Voilà. Le personnage du président des États-Unis qui est joué aussi par Peter Sellers, Merkin Muffet. Muffet en argot, ça signifie vulve de femme. Et Merkin désigne les poils pubiens. Donc. Voilà, tout est dit. Hein. Le capitaine Mandrake fait en référence à la mandragore, qui est une plante, un stimulant érotique. Et puis le docteur Fallamour est fortement inspiré de Werner von Braun, un ingénieur nazi qui a notamment participé à la création des V2, voilà, ouais. Et qui a été intégré à la NASA pour développer le programme spatial américain, sachant qu'à l'époque, la création de fusées, c'était aussi jumelé avec la création de missiles balistiques pour envoyer des bombes chez les voisins. Et c'est pour ça d'ailleurs que le docteur Fallamour a beaucoup de mal à garder son bras droit le long du corps. Il a tendance à le relever un peu rapidement de temps en temps, ce qui cache son passé nazi. Ce qui est d'ailleurs assez drôle, parce qu'à l'époque, Werner von Braun, ils avaient un peu lissé son image pour dire « Ouais, bon... Il était un peu nazi malgré lui, sauf que finalement, non, c'était un vrai nazi.
Le film introduit la notion, parce qu'effectivement, le missile est clairement phallique, enfin une représentation phallique. Et le film fait part de wargame, wargasme. Plutôt que wargame, c'est wargasme. Et ça, je trouve ça excellent, quoi. Ça parle vraiment de ce que renvoie l'idée de la guerre dans ce besoin de testostérone affiché, quoi. Enfin, c'est ni plus ni moins qu'une guerre de celui qui a la plus grosse, en fait.
C'est ça.
D'ailleurs, il s'assoit sur le missile pour montrer que c'est lui qui a la plus grosse.
Il le chevauche, ouais. Comme un cow-boy en plus. Voilà. Et d'ailleurs, ce film-là, contrairement à encore que Dr. No a imposé certains clichés du film de genre, la base, tout ça, mais reste beaucoup plus fantaisiste, surtout maintenant. Ce que j'ai lu aussi en préparant, c'est que faut remarquer que Ursula Andress, elle sort de l'eau avec un bikini, ce qui est aussi une petite référence plutôt sympa, sauf pour les habitants de Bikini, des îles Bikini, au nucléaire, puisque c'est là-bas que les Américains faisaient leurs essais. Ils ont fait leurs essais pendant un moment. Mais tout ce qu'il y a de visuel dans Docteur Fallamour, c'est imposé dans le cinéma classique, les salles avec les grandes tables et l'éclairage, tout ça, ça a été c'est maintenant un lieu commun. Si quelqu'un veut faire une grande table où on sent que c'est important, ce sera un décor à la Stanley Kubrick, même si c'est pas très réaliste en fait, parce qu'il y a toujours le bon nombre de chaises.
Non, mais Stanley Kubrick, enfin là, il affiche clairement aussi sa position dans une Amérique qui sort du McCarthyisme, qui sort de voilà, enfin, il dit les choses. C'est pas un message caché. On sort de la crise de Cuba, on sort. Voilà, il dit clairement sa, enfin, son anti-militarisme profond, sa profonde détestation de la chasse aux sorcières. Enfin, voilà, il dit tout ça, quoi. C'est un objet politique, hein, Docteur Follamour, moi, je trouve. Hein. Enfin, vraiment, j'invente rien en disant ça, c'est clair. Et puis, je trouve qu'on a, on a aussi, tu as raison, ça pose aussi les films qui font partie de l'idéologie cinématographique, c'est dur à dire, qu'on dit généralement fin de l'histoire avec un H majuscule. On avait des trucs où effectivement on est à la fin de l'humanité, quoi. Enfin, Mars Attack en 96 de Tim Burton fait clairement penser à ça. Enfin, c'est une menace extérieure, complètement systémique. Bon, même si la manière de l'éradiquer est complètement ridicule, mais voilà, il fait bien une pirouette, mais quand même, quoi. C'est on vient en paix, mais bien sûr, quoi. Enfin, voilà, c'est toute l'arnaque diplomatique de deux pays qui veulent se faire la guerre, quoi.
C'est ça.
Il y a Starship Troopers en 97 de Verhoeven qui pour moi est aussi qui flirte avec cette ce rapport guerre dictature etc. Enfin les costumes des cerveaux quand ils viennent des cerveaux pour le coup c'est pas le bon terme mais les scientifiques quand ils viennent étudier
les ingénieurs
ouais. Gros cerveaux les ingénieurs c'est quand même des costumes nazis quoi enfin on est pas loin des costumes.
Tous des costumes nazis et ceux des ingénieurs, c'est carrément les costumes des SS. Et comment ce film-là, moi, c'est pareil. C'est un film. Déjà, j'avais beaucoup. Ça m'avait fait sourire à l'époque parce que je l'ai vu au cinéma. Je l'ai vu au cinéma et j'avais apprécié. Et je l'avais apprécié parce que, comme un autre film de Verhoeven qui est extrêmement visionnaire, Robocop, c'est un film qui est un excellent film d'action. C'est vraiment un très très bon film de guerre. Et les effets spéciaux sont assez hallucinants. Il reste encore 25 ans plus tard, il reste encore tout à fait correct.
Bah beaucoup d'effets de plateau, hein. Donc
beaucoup d'effets de plateau, quelques images de synthèse, mais c'est vraiment bien fait. Dans le gore, il va jusqu'au bout parce que on sent bien que les parasites, quand ils se servent de leur mâchoire, c'est pas une petite plaie ou un ongle retourné qu'ils font. Les effets spéciaux dans Robocop étaient un peu foireux, mais c'était voulu aussi. Il y avait une certaine volonté de faire du cheap. Beaucoup de personnes, quand Starship Trooper et beaucoup de critiques ont vu un film, une apologie du nazisme et du militarisme par rapport à aussi le rapport qu'ils ont à la citoyenneté. Il faut gagner son droit à la citoyenneté dans Starship Trooper.
Oui,
alors que non, c'est un film très ironique, enfin, il y a vraiment plusieurs degrés de lecture. Et Starship Trooper est sorti en 97. Et quand le 11 septembre est arrivé, et surtout la guerre en Afghanistan, puisqu'en plus les paysages qu'on voit dans Starship Trooper, notamment la planète Kendatu, ressemblent à l'Afghanistan, on se rend compte à quel point ce film est visionnaire, puisque ça décrit bien les choses. C'est que les insectes, on les a attaqués. Je ne dis pas que... en Afghanistan, c'était chouette, hein, c'est pas ça du tout. Mais on se situe du côté des gentils dans Starship Trooper, alors qu'on ne sait pas qui c'est qui a attaqué en premier. C'est toujours ça, en fait. Et les gens se sacrifient pour une patrie, mais ils se sacrifient, en fait, ils se sacrifient pour des personnes qui, elles, ne se battent pas, quoi. Il y a 200 000 morts en une heure à un moment dans un combat. Ce que ça engendre, c'est juste un changement de commandement, quoi. Avec serrage de main et les bises qui s'imposent, et puis basta, quoi.
Mais Verhoeven est plus tranché que l'auteur, c'était Heinlein avec Étoile au garde à vous, enfin Robert Heinlein.
Oui.
Qui était quand même beaucoup plus on the edge pour la prise de position. C'est compliqué de savoir si Heinlein
c'est un
militariste ou pas. Verhoeven est clairement
ouais. Mais quand j'ai lu le bouquin après le film, je me suis dit tiens, le bouquin était présenté comme fasciste. Hein. Et moi c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu un film
traumatisé de guerre. Enfin,
voilà. Ouais, c'est ça. Le bouquin, il faisait penser un peu au jeu, pour ceux qui connaissent, au jeu vidéo Quake 2, où D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les suites de Starship Troopers où les personnes évoluent dans une combinaison, alors que là, ils ont vraiment une uniforme de fantassin classique dans le premier film. Mais c'était un bon film, un bon livre de divertissement assez banal, c'est plutôt bien écrit, ça se dit plutôt bien. Et le film de Verhoeven, c'est un sacré coup de pied dans le ventre, quoi. Ça y va franchement. Ouais. Et ils utilisent aussi du nucléaire dans. Mais là, c'est des mini-armes nucléaires qu'ils ont pour nettoyer des terriers, enfin des. Je sais pas comment on dit, des ruches ou. Voilà.
Voilà. Vous voulez en savoir plus? Cliquez.
C'est ça.
Et en 97, c'était génial ça, parce que là, ça paraît banal 30 ans plus tard, mais. Enfin, 25 ans, pardon, excusez du peu, mais. Parce que le vous voulez en savoir plus, cliquez, en 97, c'était vachement visionnaire sur la manière dont maintenant on nous abreuve de putaclic et compagnie, quoi. Enfin.
Oui, c'est ça. Et Internet n'était pas comme ça à l'époque. Internet, c'était pas. Il fallait.
Non, c'était pas
on
ça.
Pouvait cliquer, mais c'était pas. C'était. Là, le débit qu'il montre, c'est le débit actuel, en fait. C'est.
Ah ouais.
Voilà.
Oui, l'information devient un médiateur spectacle sur lequel on peut en apprendre plus et puis on se prend 20 000 pubs dans la gueule, quoi.
Voilà. C'est ça. Alors, par rapport au nucléaire, il y a une saga, moi, que je trouve qui parle énormément de nucléaire, c'est la saga de James Bond. Et en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'en fait, moi qui pensais bêtement que James Bond affrontait les Soviétiques, c'est pas trop les Soviétiques qui sont l'ennemi principal de James Bond et du monde libre, c'est plutôt les Chinois, en fait. J'avais jamais fait attention à ça. Je sais pas si toi, tu t'en étais rendu compte.
Ah non, je suis surpris. Moi, j'avais plutôt l'idée de Spectre, hein, qui a été remis au goût du jour dans les films de Craig, mais qui était déjà présent, très présent dans les films des années 70, comme une multinationale du crime.
Ouais.
Je pensais pas que la Chine était à ce point-là au centre de...
Déjà... Bon, il y a plusieurs films, notamment, on commence avec Dr. No. Dr. No, il a des traits éthiques. Hein. C'est assez grossier maintenant, parce que c'est un acteur qui a été maquillé. Il a perdu ses mains, notamment à cause de la radioactivité. James Bond, lui, utilise un marqueur radioactif pour être localisé. Le Dr. No est asiatique et il est un peu entre les deux, en fait, entre les Américains et l'Occident et les Soviétiques, pour foutre un peu la zone, en fait. Et à l'époque, déjà, la Chine était considérée comme un état voyou. Ça, la Chine a eu l'arme atomique assez tôt, je crois, c'est en 64, hein, à peu près au même moment que la France, hein, qui était aussi considérée comme un pays un peu ambigu. À cette époque-là, par les anglo-saxons. Ce qu'on voit d'ailleurs dans le film Thunderball, puisque dans le film Thunderball, il y a des agents de Spectre qui sont français, mais il y a aussi celle qui aide James Bond, c'est une française. Donc, ils jouent sur les deux tableaux. Dans Goldfinger, le but du méchant Goldfinger, qui est allemand, ou néerlandais, c'est de rendre radioactif tout l'or qui est dans Fort Knox aux États-Unis.
Ouais.
C'est les Chinois qui fournissent la bombe. Voilà. Y a d'autres films comme ça. Il y a aussi On ne vit que deux fois, où oui. James Bond se retrouve au Japon et c'est les Chinois aussi qui sont les méchants de l'histoire. Après, non, il y a quelques films quand même où c'est les Russes, hein, L'espion qui m'aimait, Moonraker, Rien que pour vos yeux, tout ça. Mais on a aussi le retour des Chinois dans le film avec
Timothy Dalton?
Non, c'est pas Timothy Dalton dont je pensais, mais c'était le film avec c'est le monde ne suffit pas.
Pierce Brosnan.
Avec Pierce Brosnan, oui. Où il y a un mania des médias, Carver, je crois, de son nom, qui essaie de provoquer une crise au moment de la rétrocession d'Hong Kong à la Chine. Entre les Anglais, l'OTAN, et les Chinois, en jouant avec les GPS, des choses comme ça. Voilà.
En l'occurrence, donc, la Chine n'est pas le méchant. La Chine est une victime collatérale oui.
C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais dans James Bond, il y a énormément d'armes nucléaires, puisque c'est à chaque fois un risque mondial. Voilà. Sauf dans. Bon baiser de Russie, où c'est plus restreint, mais dans Bon baiser de Russie, c'est pareil, c'est un petit peu une réponse à comment la crise des missiles de Cuba, puisque le film se déroule en partie en Turquie. Et souvent, les soviétiques sont présentés comme les grands méchants de l'histoire parce qu'ils ont installé des missiles à portée des États-Unis sur l'île de Cuba. Et faut bien se rappeler que quand la crise des missiles s'est terminée, la négociation obligeait les Américains, théoriquement, à enlever leurs missiles qu'ils avaient mis en Turquie, qui était à peu près l'équivalent de Cuba pour la Russie. Donc,
oui, et qui reste un pays allié de l'OTAN. Donc,
C'est ça. Voilà.
Ah oui, mais on retrouve un peu... C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans la crise actuelle, là, on retrouve un peu ces espèces de vieux démons autour de la présence du grand méchant aux frontières. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est l'excuse, ça a été de dire qu'il ne fallait pas que l'OTAN s'approche trop de la Russie, donc on empêche l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Je pense que c'est une excuse parmi d'autres, mais on retrouve un peu ça, et ça va à nouveau alimenter effectivement le... J'imagine, en tout cas, abreuver quelques scénaristes.
Ah oui, puisque déjà
d'action et d'espionnage.
C'est ça. Et puis c'est bien parce que ça fait un bon méchant. Enfin, en général, quand tu développes aussi des systèmes d'armes coûteux, ce qui est intéressant pour le justifier, c'est d'avoir un bon méchant. Là, on en a un. Ça fait 20 ans qu'il est là, et puis maintenant, ça y est, on l'a comme on peut l'avoir très bien comme il faut. Donc les Russes vont sans doute redevenir des méchants dans les films pendant un moment.
Pendant un bon bout de temps, oui, là.
Voilà. Et puis voilà. Alors autrement, ce dont on peut parler aussi pour... là, c'est parler des films où on voit une bombe exploser.
Eh oui.
Il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu de plus en plus parce que, grâce aux effets spéciaux, en fait, parce que les effets spéciaux permettent maintenant de faire des choses un peu crédibles, on va dire, sans que ça sente la maquette. Moi, la première, comme je disais, c'était celle de Terminator 2. Il y a une autre qui m'a beaucoup marqué aussi, visible à l'écran, parce que je m'y attendais pas, parce que c'était assez rare dans les films à l'époque. C'était dans La Somme de toutes les peurs, où il y a une mini-bombe atomique qui rase la ville de Baltimore aux États-Unis. Et à l'époque, en général, le héros arrivait à couper le fil bleu ou le fil rouge quelques secondes avant que ça pète. Voilà. Et là, pour le coup, on y croit. Maintenant, c'est beaucoup plus banal. On y notamment avec des films comme Mission Impossible où carrément le Kremlin explose, la Place Rouge en tout cas. Et là, moi, je m'y attendais pas. Et il y a une grande ville majeure des États-Unis qui est rasée. Voilà. Le film est d'ailleurs plutôt réussi. C'est avec Morgan Freeman et Ben Affleck dans le rôle de Jack Ryan. Jack Ryan qui avait déjà été incarné par Harrison Ford. Et puis par Alec Baldwin aussi, dans un autre film où on parle un petit peu de nucléaire, c'est quand même Octobre Rouge.
Octobre Rouge, oui.
Qui pour moi...
Jack Ryan d'ailleurs, qui fait l'objet d'une série sur Amazon Prime actuellement.
C'est ça, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça vaut.
C'est sympa, ça reste du Jack Ryan, ça reste du... Voilà.
D'ailleurs, petit clin d'œil sur les bombes désamorcées, dans Goldfinger, James Bond n'arrête pas la bombe à une ou deux secondes. Parce qu'il y a un compteur à trois chiffres. Il arrête la bombe à 16 secondes de la fin, ce qui lui permet d'afficher un magnifique 007.
Mais GoldenEye reste pour moi des meilleurs James Bond à plein de points de vue.
Ouais. Mais GoldenEye est très bon aussi. Ouais. Oui. Et donc voilà, moi c'est à peu près ça au niveau explosion à l'écran. Il y a aussi la fin de Terminator 3.
Qui est très chouette.
Ouais. Enfin, qui est très chouette.
Non, j'ai aimé ce film-là pour ça. C'est qu'on est sur un film qui laisse aucun espoir. Oui. Je dis pas que c'est bien de ne pas avoir d'espoir, hein, c'est pas du tout le propos, mais la saga des Terminator souvent se terminait sur une note d'espoir qui disait bon, voilà, le combat continue, mais pour ce coup-ci, c'est bon, on est tiré d'affaire. Alors que là, non, quoi. Il n'y a pas de rédemption. C'est. Ils finissent dans l'abri et quand ils se rendent compte qu'ils sont dans un abri atomique, il est trop tard.
Il est trop tard, ouais. Et le Terminator le sait depuis le début.
Ouais. Et j'ai trouvé le. Pour moi, c'est un des films de. Enfin, il n'avait pas été bien accueilli, je crois, de mémoire, ce film-là. Mais moi, c'est un film que j'avais beaucoup aimé pour plein de raisons, et notamment pour son final.
Oui. J'avais beaucoup aimé aussi la course-poursuite avec la grue.
Oui, notamment, il y a plusieurs séquences dans le film qui étaient à l'époque, moi qui à l'époque m'avais scotché dans mon fauteuil, hein, enfin, le scratch de l'hélicoptère dans le tunnel était complètement impressionnant, toute la bataille qu'il y a avec les drones dans le, dans le centre de Skynet, c'est pareil. Enfin, non, il y a des séquences très très bonnes. Et puis voir Schwarzenegger se faire se prendre la miquette par une nana, c'est un pur plaisir.
Il s'est comme arraché la tête.
Ouais, c'est pas rien quoi. Non, mais je trouve que le film il est plein de qualités pour ça.
Ah, celui-là, ouais, il y a. Mais à part le Genesis et puis à part Genesis d'ailleurs, je trouve beaucoup de qualité à la saga Terminator. Oui, même oui. Si c'est on nous resserre à chaque fois le même film, puisque c'est toujours à peu près la même histoire, sauf pour Renaissance. Mais Renaissance, j'ai trouvé aussi plein de qualités à ce film-là.
Bon, Genesis, c'est pas en soi un mauvais film, c'est un bon divertissement. Voilà. Après, on peut excuser, comme on excusera au Freddy, d'avoir son chat noir dans la série, quoi. C'est, pour moi, il fait partie de l'univers étendu Terminator. Parce que là, on est vraiment dans l'univers étendu avec Genesis. Il parle dans un.
Oui. Ouais.
Puis je crois que c'est dans Genesis que vous avez réussi à rajeunir Schwarzenegger, enfin, faire une réplique un peu de synthèse de Schwarzenegger jeune, qui était plutôt.
C'était plutôt bien fait. Parce que il y a un combat entre le Schwarzenegger le Terminator de 84 et celui de l'année de sortie du film, donc c'est peut-être 2012 ou 2012 et 2015. Voilà. Mm. Et c'est plutôt bien fait. Ouais. Donc voilà. Après, on passe sur des films où là carrément post-apocalyptique.
Oui, les post-apocalyptiques. Moi, je trouve que les films, alors peut-être un peu moins maintenant, parce qu'on a été servi par Walking Dead, etc., par des choses beaucoup plus terre-à-terre, hein, pas forcément moins réussies, mais plus terre-à-terre, mais la plupart des films, je trouve, post-apo, dans lesquels il y avait des zombies, jusqu'à encore très récemment, ça renvoyait quand même aussi à cette peur du nucléaire et de la fin du monde. Voilà. Souvent, c'était plutôt souvent sur du bactériologique. Mais parce que les armes bactériologiques, c'est un peu les nouvelles armes. Enfin, la peur de l'arme bactériologique, c'est un peu la nouvelle peur de l'arme nucléaire des années 50-60, quoi. Et c'est d'autant plus d'actualité avec les pandémies qu'on traverse en ce moment. Mais pour moi, il y a un vrai parallèle. C'est-à-dire que c'est de la même manière, c'est une arme fabriquée par l'homme, complètement incontrôlable. On peut en contrôler les stocks, parce que c'est le grand truc de l'arme nucléaire. Hein, y a toujours du plutonium qui disparaît. Voilà, j'ai encore, avec grand plaisir, j'ai revu Tenet hier soir. Et je dis avec grand plaisir, je défendrai ce point de vue-là jusqu'au bout. Mais c'est encore une histoire de plutonium qui a disparu. Quoi.
Voilà. Bah, Tenet, pour moi, c'est un James Bond réussi.
Voilà. Ouais, mais ça, il y a plein de qualités. Oui. Il a ses défauts, hein. On peut en parler deux minutes, hein. Il a ses défauts parce que j'ai repéré quand même par moments des ellipses un peu faciles.
C'est la signature de Nolan un petit peu.
Oui.
Il y a ça aussi beaucoup trop dans le Dark Knight. Dark Knight Returns, non, c'est pas. Rise, non, le troisième.
Oui. Voilà. Oui.
Le deuxième est quasiment parfait. Mais...
Oui, mais tu as raison, il y a beaucoup d'ellipses aussi dans le troisième. Mais là, vraiment, il y a quelques ellipses, on se dit. Quand même, normalement, c'est pas en deux jours qu'on fait ce contact-là, quoi. Les mecs, ils passent dans la vraie vie, ils passent des mois ou des années à essayer d'avoir la confiance du gros trafiquant d'armes. Là, lui, il se pointe et bon, bref. Mais par contre, le film est très réussi pour beaucoup de raisons et j'ai repéré des choses que j'avais pas repérées la première fois sur le plan scénaristique et que j'ai trouvé extrêmement habile. Pour revenir un peu sur le sujet, oui, donc c'est encore une histoire de plutonium qui a disparu, mais quand même, ces histoires d'armes. Qui finissent dans les mauvaises mains, on ne sait pas trop les stocks, etc. On l'avait aussi avec les armes bactériologiques pendant une période, et les films de zombies souvent te parlent de... tout le monde sait qu'une arme, c'est dans un camion poids lourd, banalisé, qui se renverse sur la route, et qui, l'ignorance totale des populations, se déverse dans la nature. Voilà. Mais c'était un peu la même chose avec certaines armes nucléaires pendant une période. D'ailleurs, le dernier Zack Snyder... On ne sait pas trop ce que c'est. C'est compliqué. Le Army of the Dead.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose qui est nucléaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est extraterrestre? Ce qui est tout à fait possible. Hein. Le début du film parle de la zone 51. Enfin bon, encore une fois, on ne sait pas. Mais les films post-apo, moi, ça me renvoie souvent à ça, à cette peur de. Ça part toujours d'une erreur humaine.
Oui. Un peu comme Mad Max. Mais Mad Max, lui, c'est du post-apocalyptique. On sent le post-nucléaire, mais c'est plutôt d'une pénurie d'essence que le monde s'écroule, en fait.
Moi, ça me fait penser à la fin du monde de famine, en fait. Enfin, les guerres de famine, les guerres de la faim, les guerres du pétrole. Ouais. Voire les guerres de l'eau aussi, hein, à un moment donné, il me semble.
Oui.
Le Fury Road, hein, c'est l'eau. Hein,
le Fury Road, c'est l'eau, ouais. Et dans le Mad Max 2, c'est le carburant.
Ouais.
Dans le premier, c'est la fin de ce monde.
Oui. Après, le premier, moi, il me fait toujours marrer, parce qu'on en avait parlé sur les films censurés, mais quand on voit la raison pour laquelle Mad Max avait été censuré, c'est quand même pas grand-chose à l'époque.
C'était quoi déjà? Celle-là, je me rappelle plus.
C'est parce que je crois que c'est
la scène
était trop violente, celle de
camion.
Le camion, oui.
Ouais, avec les yeux qui sortaient, qui s'exorbitaient. Mm. Ouais. Mais souvent le post-apocalyptique,
l'aigle de la route.
L'aigle de la route, ouais. Il sert aussi à montrer une société qui se détruit, qui se reconstruit. C'est un prétexte.
Oui, tout à fait.
Voilà. On peut voir ça aussi dans le règne du feu. Le règne du feu où l'arme nucléaire, ce sont les dragons, en fait.
Oui, il y a un peu de ça.
Voilà. Et la terre a été rasée, tout est cramé. Ils se nourrissent de cendres, en fait. D'ailleurs, le film est plutôt réussi.
Je suis pas d'accord.
T'aimes pas, toi, ce film-là?
Ah, pour moi, il y avait un gros problème d'échelle. À chaque fois qu'on voyait un dragon, il y avait un souci d'échelle à l'écran. Donc, j'ai eu du mal avec ça.
Ils étaient souvent trop grands.
Ouais, ouais, trop grands ou trop petits, parce que quand ils sont face à Christian Bale, c'est quand même des gros lézards.
Oui. Mais les balaises, Christian Bale.
Ouais, oui, non, mais par contre, voilà, c'était sympa de voir des dragons à l'écran, mais pour moi, le film n'est pas réussi. Il a raté son propos sur plein de choses.
Ah, moi, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça assez sympa.
On sentait pas l'humanité en danger.
Non, ça c'est clair. Mais c'était un bon film de divertissement.
Voilà, bah, comme je dis, hein, le cinéma n'a pas vocation d'être tout le temps intelligent. Hein, le but, c'est de nous divertir.
Déjà. Et donc voilà, et puis en film post-apocalyptique, moi, un de ceux qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'était quand même La Route. Hein. Oui. c'est pas expliqué, c'est pas forcément une catastrophe nucléaire, mais ça y ressemble. C'est la nature elle se détruit, après c'est peut-être même une catastrophe écologique. La nature se détruit et tout le monde s'écroule, quoi.
Oui, le point de départ, t'as raison. Enfin, quand on assiste au souvenir en fait du personnage principal, on sent qu'il y a une catastrophe, il y a quelque chose qui a explosé ou quelque chose qui explose partout. C'est un peu systémique, qui fait très peur, qui provoque la fuite des populations, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est un film que moi, je trouve alors très réussi, et le bouquin avait rappelé le prix Pulitzer, d'ailleurs. Le bouquin est très bien.
Il est encore plus dur que le film.
Il est plus dur que le film, oui. C'est un cauchemar à lire. Enfin, c'est un très bon bouquin. Quand j'ai un cauchemar, c'est pas pénible à lire, mais quand on le lit, c'est... Faut avoir les voix, faut être dans de bonnes dispositions morales. À pas lire en ce moment, par exemple. Mais non, c'est vrai, c'est un truc, c'est redoutable. Mais le film avait quand même cette réussite-là de créer une dynamique extrêmement mélancolique, c'est-à-dire la perte de sens. Ils sont sur la route, effectivement, avec une destination qui, a priori, pourquoi cette destination-là plus aucune autre? On sait pas. Et finalement, si on sait, c'est voilà, il faut marcher, quoi. Il faut avancer pour pas mourir, en fait. C'est ni plus ni moins que ça le but de cette route-là. C'est faut continuer à avancer, quoi qu'il arrive, de toute façon, et quoi qu'il se passe. Mais on voit aussi, le film est très pessimiste. Enfin, c'est une fin d'humanité absolue. Enfin, il y a pas de rédemption, il y a pas d'espoir.
Très peu, parce qu'au final, au final, il laisse son gamin à un inconnu, en fait.
Oui.
Quasiment les seuls humains qu'on croise en dehors de la femme, de la femme du héros, sont des cannibales, en fait.
Ouais, enfin, on sait pas trop, mais ils sont dégénérés, ouais.
Ils sont bien dégénérés, mais c'est. Et puis, comme c'est montré dans le film, c'est pas. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément été toujours comme ça. C'est des gens qui sont habillés, habillés de façon classique. C'est pas des monstres ou des mutants comme dans Je suis une légende, par exemple.
Oui,
c'est,
tout à fait.
Voilà. Ce qui rend la chose très très violente.
Voilà. comme disait Hannah Arendt, hein, on n'est pas bourreau et on n'est pas mauvais. En fait, on le devient, on apprend à l'être. Et on peut l'être malgré soi. Voilà, les circonstances peuvent nous pousser à devenir les pires tyrans qui soient. Et oui, ce film-là m'avait laissé quand même un petit peu sur le cul. Mais il y a un autre film, on parle de nucléaire, alors un autre film qui n'a rien à voir avec le nucléaire, mais qui quand même, je trouve, pose les bases d'autres choses intéressantes. C'est un film qui a été aussi assez mal accueilli, je crois, par le public, c'est Phénomène, de Night Shyamalan, oui. Je viens de le dire.
Shyamalan.
Shyamalan, mais j'en rajoute toujours trop des syllabes. Désolé pour toi si tu nous écoutes, ce qui est peu probable. Mais celui-là a été mal accueilli alors que je le trouvais vachement intéressant. La manière dont les choses échappent complètement au contrôle de l'humanité et d'un seul coup, parce que ça nous échappe, on ne sait plus comment faire.
Bah moi, j'avais trouvé assez intéressant aussi ce film. Et la scène d'intro, quand ça commence à déraper, j'avais trouvé ça plutôt... c'est souvent le cas dans ces films, plutôt bien réalisé. J'avais beaucoup aimé Le Sixième Sens. Je vois un culte presque illimité à Incassable. Mais après,
à la trilogie, parce que les trois films sont bien.
Les trois films sont bien, ouais. Et après, il a fait des choses qui étaient un peu soit redondant, soit un peu. Il faut que je place un, comment on appelle ça, un switch à la fin ou un switch, ouais. Et ça, moi, le village, ça n'avait pas du tout fonctionné. Le village, moi,
n'a pas fonctionné dès la bande-annonce. C'est-à-dire que quand, on sortait de Sixième Sens de mémoire.
Oui.
Et quand j'ai vu la bande-annonce du village. Bah forcément, on se disait, il y a un switch et la bande-annonce en montrait déjà trop. Et moi, j'ai sorti de cette bande-annonce en disant, bah, c'est facile en fait. Ils ne sont pas au Moyen-Âge, ils sont de nos jours.
C'est ça. Voilà.
Et la bande-annonce, déjà, posait ça. Donc, bah, ça n'a pas pu fonctionner.
Bah non. Et puis, ça m'embêtait un peu parce que le casting était impressionnant. Le casting de ce film, de mémoire, c'est Leo Weaver, il y avait Adrian Brody, il y avait comment. L'acteur américain là, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Là. Celui qui jouait le colonel Ross dans Hulk, l'incroyable Hulk, je crois. Ouais, c'est ça, dans l'incroyable Hulk.
Oui. Bien, son nom m'échappe.
William Hurt, hein, voilà. William Hurt, c'était Sam Elliott qui l'interprétait dans le tout premier Hulk, et c'est William Hurt qui l'a interprété après dans le MCU. Voilà. Et lui aussi, c'est le chef du village, je crois. Mais bon.
Rien à voir, mais voilà. Puisqu'on parle nucléaire, j'ai beaucoup aimé Hold, son dernier film. Parce que c'est un des rares films de Shyamalan. Je trouvais qu'il finissait sur une note optimiste et good vibe.
Oui. Oui.
Moi, j'ai beaucoup aimé La Jeune Fille Yellow.
Moi aussi. J'ai trouvé ça plutôt sujet. Sympa. j'ai trouvé ça plutôt correct, ouais.
Oui,
et voilà, après, on va pas tarder à conclure, hein, mais il y a aussi des films post-apocalyptiques français. Il y a notamment Malville, de 1980.
Et qui parle de nucléaire.
Et qui est sérieux, qui est premier degré.
Qui est sérieux, qui était adapté d'un livre de Robert Merle, avec Jacques Villeray notamment.
Voilà, et c'est la confrontation de deux mini-tyrannies, en fait. Celle du village et puis celle du tunnel. Voilà.
Ouais.
Et puis ça se termine, tout le monde est emporté par des puissances étrangères, on ne sait pas trop, pour de la rééducation en fait.
Voilà. Mmh. Ouais, ce film-là, c'est vachement bien.
Et puis après aussi, on n'en a pas trop parlé, mais dans un genre qui parle beaucoup de nucléaire, c'est forcément le film de sous-marin.
Oui.
Voilà, donc il y a quelques réussites comme USS Alabama, et moi je trouve surtout. Surtout comment à la poursuite d'Octobre Rouge. Le Chant du Loup, moi, je suis moins fan. Voilà, je trouve que le scénario est trop faible, en fait. Voilà. Ça fonctionne pas trop.
Bon, moi, je trouvais plutôt pas mal, mais pas mal, quoi.
Il y a des moments, moi, perso, des moments héroïques dans le film qui m'ont fait rire, en fait. Et quand ça me fait rire, c'est pas bon signe. Le lance-missile du kiosque, ça m'a fait rire. Le gars qui sort à je sais pas quelle profondeur par le lance-torpille pour finir par s'éclater sur le sous-marin en face. Voilà, les échelles de temps et d'espace qui sont comme si c'était en jet ski. Enfin, c'est. Voilà.
Non, mais c'est, moi, j'aime bien saluer de temps en temps quand le cinéma français va sur un terrain qui n'est pas son. son terrain de prédilection. Ouais, puis dire, mais tu as raison. Enfin, bon, on a encore du travail.
Ouais. Après, ce que j'avais apprécié en ce film-là, c'est que pour le film, la marine a prêté a aidé pour la réalisation du film. Elle a prêté elle a prêté son matériel et elle a ouvert certaines de ses bases. Et ça donne à voir des choses assez inédites au cinéma quand même.
Ouais,
y a quand même pas un décor en dur, c'est quand même de suite plus impressionnant qu'un.
Oui, qu'un voilà. Écran vert. On est bien d'accord. D'autant plus que maintenant ils vont abandonner les écrans verts au profit d'autres choses. J'aime bien faire les coq à l'âne comme ça, il est hors sujet. C'est un système de projection directement sur des écrans derrière.
Oui, mais ça montre déjà ses limites. Hein. Dans Mandalorian, c'était super. Et dans Obi-Wan, c'est pas terrible.
J'ai pas vu
Obi-Wan. je vais aller jusqu'au bout. Mais ce sera un effort.
Ah ouais, à ce point-là.
C'est heureusement qu'il y a Ewan McGregor.
Ils ont fait tout un bataille. Fett, j'ai abandonné au bout de 3 épisodes. Je crois que j'en pouvais plus. C'était insipide.
Pour moi, c'est entre Boba Fett et le Mandalorian, mais proche de Boba Fett. Voilà. Tout le monde a fait un battage sur la présence de Vador au 3e épisode, qui est très méchant. C'est vrai, il est très méchant, mais je l'ai trouvé surtout très ridicule. Sans spoiler, hein, pas du tout, mais quand on le voit arriver dans l'Empire contre-attaque, une des premières scènes, je crois, où on le voit, la première scène, on le voit dans l'épisode 4, il débarque dans une navette. Voilà, derrière les Stormtroopers. Pas grand chose à part péter la nuque d'un des officiers.
Il
pose là, voilà. Une des premières scènes, je crois, où on le voit dans l'Empire contre-attaque, il est de dos face à une barrière de son vaisseau, il est de dos et il se retourne. Voilà, c'est tout. Là, on le met sur un trône sur Mufasa, la planète volcanique. C'est ridicule en fait. Il ressemble à Skeletor, c'est ridicule. Et en fait, non, Vador, il aurait même pas dû apparaître, enfin, peut-être il aurait pu apparaître dans la série, mais de loin, comme il est dans une menace distante. C'est là, il va au carton, ça marche pas en fait. Mais il n'y a pas que ça qui fonctionne pas dans la série. Il y a Ewan McGregor qui fonctionne très bien.
Je te propose que l'année prochaine, on commence peut-être par une émission Star Wars.
Ouais, bah on peut le faire. On peut le faire. Je suis capable.
On peut le faire. C'est parfait.
on va s'arrêter là.
On repartit pour une heure, on va se faire tirer les cheveux.
Oui, on va se faire tirer les cheveux. Déjà, j'en ai plus beaucoup. On va faire une petite pause musicale, plutôt une clôture musicale, on va dire.
C'est ça.
Avec. Pardon ?
Ben oui, c'est ça.
C'est ça. Avec Broken Bell, Good Luck. Good Luck, forcément avec le nucléaire. Bonne chance à tous. et puis on se revoit l'année prochaine. On se retrouve au mois de septembre, peut-être.
Bon, certainement, parce qu'il va y avoir un très très bon générique quand même, et ce serait dommage de s'en priver.
Et bah, à la prochaine. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci Joël.
Ouais, merci Joël pour ta fidélité. Probablement c'est ça. Notre auditeur le plus fidèle quand même.
Le seul d'ailleurs.
Bon, c'est pas gentil pour les autres.
Et salut. À bientôt.
Bonne soirée.
À bientôt. Et tout de suite, vous retrouvez, quand la musique est bof, enfin tout de suite après la section musicale ciné qui vient derrière, mais comment, à 21h, vous retrouvez, quand la musique est bof, avec ce soir la bande originale d'un film que j'aime beaucoup, c'est un film d'une réalisatrice que j'aimais beaucoup, qui est décédée, c'est Face, un film policier anglais de 1997, réalisé par la géniale Antonia Bird, qui a pas réalisé beaucoup de films, mais qui vraiment... Elle a une filmographie qui vaut le coup. Je vous le conseille fortement. Et la musique, bah, c'est de l'époque de Trainspotting. Vous allez voir ce que c'est. Voilà. Entendre. Salut!